Là, généralement, on choisit un thème qui nous parle, thème du moment. Ça fait plusieurs semaines que je suis en train d'investiguer ce thème. Donc, j'aime à l'explorer et j'aime aussi en parler. Ce thème est celui de la patience. La patience est une immense vertu cachée. Elle est une paramita dans l'enseignement du bouddhisme, ce qui veut dire une perfection. Mais en tant que perfection, c'est vraiment une qualité vertueuse à cultiver, à développer. Elle a énormément de poids dans le sens de soutenir la présence. Et je vais en parler de manière assez vaste, assez large. Le terme en pali, on aime bien donner ces termes en pali parce que souvent ils évoquent quelque chose d'assez précis en réalité. Et le terme en pali est kanti. Kanti dérive du mot kamati qui signifie consentement, consentement, approbation. Voilà ce que veut dire le terme patience. Consentement, approbation. Courage, bonne volonté. Donc vous voyez que c'est intéressant, hein? Je pense que quand on a ce terme de patience, nous plutôt c'est endure. Endure, dans le sens de attendre que ça change. Donc il n'y a pas du tout cette disposition d'esprit et voilà pourquoi c'est goûteux de parler de la patience et surtout aussi de la pratiquer. Donc, approbation, consentement, courage. Et il y a aussi cette dimension de donner de l'espace. Donner de l'espace pour que les choses existent d'une certaine manière, c'est-à-dire au contact de la réalité. Donc, je vais naturellement parler un petit peu plus de ces aspects. Mais donc déjà là, on a l'impression, en tout cas pour ma part, quand j'ai commencé à vraiment explorer cette qualité précisément et au contact des textes, bah, j'ai pu m'apercevoir que j'avais une fausse compréhension en fait, une mauvaise perception de cette qualité et que je la comprenais d'une manière certes un peu erronée, mais comme pour beaucoup d'entre nous, hein. On attend quelque chose et on a la patience jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. Donc, il y a vraiment cette dimension d'un changement de perception. Et dans notre pratique, naturellement, cette qualité du changement de perception va nous permettre un changement d'attitude. La perception erronée va nous faire pratiquer d'une manière erronée, c'est-à-dire non judicieuse. C'est pas que ce soit faux, mais naturellement, lorsqu'on a une perception fausse, on va avoir une attitude qui va générer quelque chose qui ne va pas dans le sens souhaité. Donc les termes ici sont précieux, utiles. Et non seulement ils sont précieux, mais ils sont surtout intéressants pour les intégrer et les utiliser dans le sens de pratiquer de la manière qui est porteuse. Donc, il y a dans plusieurs textes, il y a beaucoup de formes de patience. Il y en a des dizaines, mais il y en a trois là que j'explore moi-même et que je vais vous partager. C'est trois formes de patience qui sont complètement interreliées en réalité. Elles sont interdépendantes et elles se soutiennent l'une l'autre pour cheminer dans un sens approprié. La première de ces formes est la patience comme aide afin de persévérer dans notre chemin. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de la persévérance, qui est naturellement un autre, aussi une autre vertu. Donc, persévérer sur le chemin. La deuxième forme de patience est la patience qui est utilisée et qui est quelque part la présence face aux difficultés, face à l'adversité. Généralement, c'est ça qu'on comprend, hein. La patience face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, les difficultés intérieures, les résistances en nous-mêmes, mais aussi, naturellement, les difficultés à l'extérieur de nous, les conditions difficiles. Et la troisième forme de patience dont je vais parler ce soir, c'est cette patience en tant que, justement, acceptation, approbation des faits actuels, qui va nous mener à ce moment-là non pas à nous leurrer ou à rêver notre vie, mais à être vraiment plus à même de pouvoir demeurer au contact afin de voir la réalité comme elle se présente, voir les choses comme elles sont. Donc c'est lié à la réalité. Donc la première, la présence attentive, c'est vraiment quelque part l'axe central, c'est la qualité qu'on développe, mais il y a beaucoup de différentes qualités qui sont naturellement présentes dans notre esprit, en nous-mêmes, dans notre conscience, et qu'il est nécessaire de cultiver si on veut cheminer vers plus de liberté intérieure. Donc cette présence attentive, ben, elle nous aide, mais elle est accompagnée d'autres qualités. On peut parler même des 7 facteurs d'éveil, hein, si vous avez déjà entendu parler des enseignements. L'énergie appropriée, le calme, la concentration, l'équanimité, l'investigation dans le sens d'un intérêt, une curiosité, tout ce que je nomme là sont des qualités qui sont en nous et qu'on va naturellement utiliser comme facteur pour aller dans le sens de la liberté. Donc cette présence attentive, elle est l'axe, mais elle est accompagnée de beaucoup de qualités. Donc la patience va nous aider, dans un certain sens, à développer cette qualité de présence de façon continue. Il y a une constance qui nous est demandée. Il y a vraiment cet aspect, non pas d'être un tout petit moment, une seconde, au contact de la respiration, puis ouf, tac, une envolée, et puis on va naturellement nourrir nos élaborations mentales ou nos constructions mentales. Il y a vraiment cette dimension de pouvoir rester au contact d'instant en instant. Donc ça, on se dit, ah, mais c'est la présence. Ben oui, c'est la présence qui va aider à la présence. Mais la patience est là. La patience est vraiment quelque chose qui va faire qu'on va revenir, on se resitue. On est dans une disposition de pouvoir s'intéresser et cultiver cette qualité pour éprouver une certaine constance. La stabilité, ou si vous voulez, la constance de la présence, provient de cette bonne volonté, de ce courage en réalité, rétablir le contact et de rétablir le contact et de revenir. Ce n'est pas évident, comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui. Vous avez remarqué que ce n'était pas évident de méditer et de simplement rester au contact. On a tellement d'habitude de s'envoler, de partir, d'élaborer, de vraiment être dans une attitude complètement opposée à celle qu'on encourage ici. Et donc, je m'inclus, hein. Je veux dire, avec un peu de temps, là, maintenant, ça fait quelques années, je vous encourage parce que ça devient plus simple, quand même. Donc, j'espère pour vous que c'est un encouragement et que vous pouvez prendre ceci comme un bon conseil d'ami. Maintenant, il y a cette attitude qui est que la constance va provenir de la douce persévérance. Hein, il y a une persévérance, mais la douceur, ben, elle est absolument aidante. Elle est aidante et c'est très souvent exactement ce qui manque parce qu'on veut bien s'engager, mais en s'engageant, on force. Et dans cette manière de forcer, eh bien, on s'épuise. Et à ce moment-là, il y a naturellement une énergie déployée qui n'est pas déployée à bon escient, mais qui va dans le cheminement inverse de ce qu'on souhaite. Donc cette douce persévérance, la douceur est très importante parce qu'elle demande un engagement, mais c'est un instant après l'autre, c'est un pas après l'autre. C'est vraiment des petits pas. Donc avec beaucoup de tranquillité, de douceur, de calme, et pas du tout de s'imposer un certain rythme. Non pas imposer non plus à l'organisme d'en faire trop. Donc il y a la dimension ici du juste milieu. Et ce juste milieu, c'est, eh bien, pas tant de résignation, c'est-à-dire de lâcher puis de dire « ok, bon, ben, quoi bon ?» Et puis, l'autre extrême qui est le fait de forcer, qui fait qu'on est dans un déséquilibre. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de cette manière de réajuster la présence, revenir, prendre appui sur ce qui se passe, élargir, ouvrir le champ de la présence. Mais cette continuité, elle est aussi évoquée dans le sens que c'est dans toutes les activités. Donc là, il y a quelque chose de très enrichissant à entendre et à pratiquer et à vraiment, quelque part, entendre réellement. C'est que très souvent, on se dit « Ah bon, la méditation, ça se passe sur le coussin, c'est dans la salle de méditation lorsqu'on est tous ensemble et puis on est là, puis voilà. » Et puis tout le reste du temps, eh ben, plus ou moins, quoi, je veux dire. Et donc la persévérance, si vous voulez, elle est vraiment dans le sens de la continuité dans toutes les activités, en mangeant, en étant debout, dans les moments de transition. C'est dans ces moments de transition qu'on va avoir naturellement une expérience extraordinaire d'exploration par rapport à relier la méditation à notre vie quotidienne. Ces moments de transition qui ne sont même pas la marche méditative formelle ou le moment d'assise ou la tâche méditative, mais entre, tous ces moments entre. Et je vais là lire un petit commentaire d'un maître de la tradition tibétaine qui a été un de mes maîtres, Dilgokhin Serimpoche, sur un texte d'un mais de la tradition tibétaine. C'est un commentaire de Dilgo Rinpoche sur un texte de Mipham. Et il dit ceci, et c'est vraiment très intéressant parce que c'est tellement proche de ce qu'on fait. La présence attentive, il dit, ne se développe pas immédiatement. Il faut persévérer, il faut être patient. Il faut être présent, non seulement dans l'assise, mais en toutes circonstances. Lorsqu'on mange, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on se lève, il est nécessaire d'être présent à l'état de notre esprit en toutes circonstances. Donc vous voyez cette dimension de la patience qui va naturellement aider à la continuité et cette qualité de constance par rapport à la présence qu'on cultive d'instant en instant. Donc ça, c'est quelque chose de très enrichissant. Et moi, je pense que... Il y a énormément à découvrir par rapport à cette attitude d'y revenir, mais avec douceur, d'y revenir. Voilà, on se perd, c'est normal qu'on se perde, on se perd constamment. On a l'habitude de se perdre, mais on se tient, waouh, on y revient. Et à un moment donné, en fait, c'est la présence qui vous appelle. Tout à coup, vous dites, hey, c'est ici que ça se passe. Et elle vous surprend. Et ce moment-là, il est assez précieux quand tout à coup, on se dit, ah, mais j'étais où là J'étais où, je m'étais perdue, ben voilà, je m'étais perdue, puis en même temps, je suis à nouveau au contact de ce qui se présente et je peux à nouveau prendre soin de ma pratique, de ma méditation. Un autre maître que j'ai eu en Birmanie, qui s'appelait Utejania, il disait constamment, tous les jours, il nous disait, levez-vous et dans votre première phrase au niveau de votre pratique méditative en retraite, est-ce que je prends soin de la continuité? Est-ce que je prends soin de la constance? Est-ce que je prends soin de soigner la présence? Donc, de vraiment prendre soin de la manière dont on pratique, mais à nouveau avec légèreté. Donc, du moment où on est levé jusqu'au coucher, il y a cette énergie mentale qui peut être douce, mais qui vraiment permet quelque part une expression de la dissipation de la confusion. C'est ça qui se passe. C'est que quelque part, lorsqu'on est perdu dans nos pensées, dans nos récits, dans nos histoires, dans notre trajectoire de rêver notre vie plutôt que la vivre véritablement, eh bien, on a quelque part cette dimension dont a parlé un peu Charles hier soir, qui est de nourrir la confusion, nourrir la dispersion, nourrir le récit. Alors qu'ici, on essaye de dissiper la confusion. La dissiper dans le sens de vraiment la percevoir pour ce qu'elle est et puis de nourrir le contact avec la vie, tout simplement. Donc le terme de confusion ici, ce n'est pas ne pas savoir. La confusion ici, c'est vraiment confondre une chose pour une autre. C'est comme ça que c'est compris dans l'enseignement. Confondre une chose pour une autre. Et ça implique, vraiment d'une manière extrêmement simple, dans ce contexte de pratique méditative, c'est prendre le concept pour l'expérience. Il s'agit véritablement de ceci, c'est qu'on prend le concept, l'histoire, ce qu'on brode, l'interprétation, l'analyse, pour l'expérience elle-même. Donc ça ne veut pas dire ne pas l'avoir, mais il y a véritablement à prendre en compte le fait qu'il y a une présence au concept et il y a une présence à l'expérience. Et ce sont deux expériences différentes. Vous comprenez ceci? Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'on commence à vraiment sentir que, ben voilà, si je dis « Ah oui, je pense à ma respiration », ben je pense à ma respiration. Donc je suis dans les pensées au sujet de la respiration. Ce n'est pas faux. C'est absolument juste. Mais là, je suis en train, quelque part, d'utiliser les pensées alors que l'expérience d'éprouver la respiration est autre. C'est ça dont il s'agit. D'accord ? De la même manière qu'on peut se dire, oh là là, il faut vraiment, quelque part, que je dissipe la douleur et que je m'en débarrasse. Ben voilà, j'essaye de trouver un moyen pour me débarrasser de la douleur. Mais je ne suis pas au contact de l'expérience, de la sensation que je nomme douleur. Donc douleur, c'est un concept, ce n'est pas l'expérience elle-même. Donc là, il y a vraiment une exploration extraordinaire et c'est ça qui va se révéler si on a cette qualité de patience qui va nourrir la présence d'instant en instant pour déposer un petit peu les concepts, ce niveau très superficiel en réalité, de voir la vie à travers tout plein de constructions mentales et de la découvrir et quelque part de dévoiler ou de révéler. Et c'est comme lever un voile. Lever le voile de la confusion, c'est vraiment ça dont il s'agit. À ce moment-là, on lève le voile de la confusion pour découvrir la caractéristique, la nature de l'expérience, de vivre au contact de la nature. Comme on voit la nature à l'extérieur, il y a vraiment cette capacité que nous sommes aussi nature et qu'on peut découvrir notre propre nature. Pas rester uniquement au niveau des concepts et des idées. Donc tout ceci va nous aider à pouvoir nous ouvrir et on va inclure à ce moment-là, grâce à la patience, à la douce persévérance et à la présence, à la dimension désagréable comme à la dimension agréable de notre existence. Il y a là une perspective qui est à nouveau très vaste et beaucoup plus large que d'habitude, c'est que notre perception habituelle nous dit « Ah mais je vais vraiment aller dans le sens de éprouver le plus possible d'agréable et puis complètement me débarrasser du désagréable. » C'est ce qu'on aimerait faire. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? Ben, ce n'est pas vraiment possible. Vous avez remarqué que, quelque part, on ne choisit pas vraiment les expériences, hein, que ce soit par rapport à soi en méditation, soit dans notre vie. Il y a peu de chances que ceci marche. Et donc, on en prend conscience. Et si on est dans cette salle, ici, aujourd'hui, ben, on a compris ça, quelque part, intuitivement. Donc, cette attitude juste, elle nous permet un déploiement et une ouverture d'esprit qui va pouvoir intégrer et tranquillement, calmement, ouvrir notre perspective et déjà bien vouloir, bonne volonté, d'explorer un tout petit peu la dimension désagréable et encore un tout petit peu la dimension désagréable, que ce soit une douleur, que ce soit une émotion, que ce soit peut-être un récit désagréable. Et naturellement aussi, nous ouvrir à la dimension agréable de notre existence. Il y a les deux. Il y a les deux. C'est très important d'entendre qu'il y a les deux. Il ne faut pas l'oublier. Donc on consent, consentir à l'agréable comme consentir au désagréable, laisser entrer la vie, laisser ce, quelque part la vie nous traverser. Il y a cette dimension de réceptivité, se laisser toucher. Et jusqu'à quel point on se laisse toucher? Et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux, la vie, l'existence n'est pas simple. Si tout va bien pour vous, on voit bien que dans le monde, il y a vraiment beaucoup de défis, d'incertitudes, de difficultés. Et donc, consentir à pouvoir, quelque part, explorer cette vie, eh bien, va nous aider à pouvoir demeurer, quelque part, dans une certaine ouverture, plutôt que le repli et la fermeture. On est très limité quand on s'enferme. Donc il y a aussi cette dimension de laisser entrer le contentement, la satisfaction, la gratitude. Une autre qualité que je pratique tous les jours, la gratitude, le contentement. C'est waouh, la reconnaissance d'être dans une situation où naturellement on peut en tout cas éprouver de la joie, de la bienveillance, la satisfaction, du contentement, si on veut, par rapport à ce qui est là, ce qui est déjà là. Ne pas l'oublier, ça. Je crois que c'est vraiment très important, parce qu'il y a une façon, des fois, de se figer sur tout ce qui ne va pas, puis on ne voit que ça. Tout ce qui manque, ce dont Charles parlait hier soir, ce qui manque. Et qu'est-ce qu'on aimerait encore avoir? Donc voilà, il y a vraiment là une découverte de dire, tiens, ben, en fait, peut-être que si je suis en présence et je contemple, eh bien, je réalise qu'il y a quand même passablement de, ne serait-ce que les qualités développées aujourd'hui, que les qualités, cette qualité de présence et sentir notre propre existence au contact de la vie. Donc, quand l'agréable arrive, nous l'accueillons. Quand le désagréable arrive, nous l'accueillons. C'est une attitude assez simple. Hein, et on y arrive un petit peu plus. Chaque jour, on y arrive un petit peu plus. Quand l'agréable disparaît, c'est OK. Quand le désagréable apparaît, c'est OK. Donc, il y a vraiment cet aspect de ce à quoi ça mène. C'est l'acceptation inconditionnelle. Et c'est exactement ceci qui va nous permettre de vivre un petit peu plus librement. Cette ouverture, cette disponibilité d'être en accord avec la réalité, quelle que soit l'expérience présente, et c'est dans notre attitude, c'est pas dans les expériences, c'est dans notre rapport à ce qui se passe que ceci est possible. Donc, si on relie la patience à ce qui a été évoqué précédemment, eh bien, ça veut impliquer qu'on attend de la bonne manière. Vous voyez ? Il y a une mauvaise manière d'attendre, c'est attente d'un résultat spécifique. La mauvaise manière, c'est attendre que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. C'est vouloir un résultat spécifique. Et donc, ça implique qu'on attend pour quelque chose qui pourrait se passer dans le futur. Mais on n'est pas dans le présent. Il y a une anticipation, là. Attendre que quelque chose se produise. Donc ça, c'est souvent la façon dont on perçoit la patience. J'attends que ça se produise, ou que ça s'améliore, que quelque chose change, vous voyez ? Et c'est le mauvais type de Kanti. Donc, comment ceci se passe si on relie à la méditation? Parce qu'ici, on parle forcément du processus méditatif, pas tant de la vie en général. Eh bien, lorsqu'on veut protéger à tout prix l'agréable, et qu'on s'y agrippe, et qu'on s'y accroche, et que l'agréable, eh bien, va naturellement, à un moment donné, changer, disparaître, eh bien, à ce moment-là, on est dans une perspective, une relation qui fait qu'on attend que ça revienne, que l'agréable revienne. Ou on a craint, la crainte que ça ne revienne pas, la peur que, quelque part, ça ne revienne pas. Donc, toute cette disposition-là va nous permettre de découvrir un petit peu comment on protège, comment on se protège soi-même d'une certaine partie de nous-mêmes. Donc, dans ces cas-là, c'est très, très judicieux de percevoir le désir attachement, de percevoir l'expectative, de percevoir comment on est dans un espoir attente. Oh, mais j'espère que ça va changer. Voire même d'une exigence. Il y a des personnes qui sont en présence d'une certaine exigence. On impose à ce moment-là quelque chose à nous-mêmes. Une personne parlait tout à l'heure, là, justement, de combien, lorsque c'est douloureux, eh bien, cette personne se blâme elle-même pour la douleur ressentie. Vous vous rendez compte combien c'est figeant, combien c'est complètement enfermant. Alors que ce sont simplement les conditions qui font qu'on a un corps, bah, parfois, il fait mal. Et on peut tous, quelque part, ressentir ceci. Donc, c'est ainsi que je relie cette première forme de patience à la deuxième. Cette deuxième forme de patience, c'est cette patience face aux résistances. Nous avons des résistances. Qui n'en a pas? Vous en avez eu aujourd'hui des résistances? Voilà. Qu'est-ce qu'on résiste en réalité? C'est tellement intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que je résiste? On résiste l'ouverture, on résiste peut-être le fait de ne pas savoir vraiment où ça va. On résiste peut-être quelque part le changement. Et on est là pour changer, non? Vous n'êtes pas là pour rester complètement le même ou la même. On est venu en retraite, oh, j'aimerais tellement changer. Puis voilà, tac, il y a quelque chose qui émerge. Oups! C'est fascinant, je trouve. Donc, le temps que ça prend pour simplement être dans cette perspective de dire « Ah ouais, peut-être laisser faire, laisser la méditation, la présence, m'agir, être à l'écoute, être beaucoup plus dans cette dimension de réceptivité plutôt que de devoir absolument agir sur. » Donc, la manière dont on résiste, eh bien, c'est justement blâmer, condamner, haïr, repousser, nier. Le déni est une forme de résistance. De ne pas y voir clair. Non, non, ça va très bien. Puis en fait, non. Donc il y a beaucoup de manières hein, de se rendre compte qu'on peut être naturellement en présence d'une résistance. Et puis, c'est la manière dont on va, quelque part, explorer cette résistance qui va nous aider ou pas. Donc, comment est-ce que c'est qu'on ne cède pas? Ben, c'est en ajoutant de la négativité à la douleur, qui provient ben, du blâme, de quelque part l'aversion. Si on rajoute une couche de résistance et de réaction sur quelque chose qui est douloureux, ben, on fait que s'enfermer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça qui se passe. Hein? Donc, c'est l'ajout de la négativité. Donc, cette patience-là, face aux résistances, est extrêmement importante et sans s'en rendre compte, quelque part, c'est ce qu'on explore. On est là parce qu'on reste là. Donc, il y a 45 minutes, au lieu de partir au bout de 10 minutes, si on était tout seul, c'était évident que si on est chez soi, ben, on se lève, on fait autre chose. Hein? On passe à une autre activité. Mais là, on a cette extraordinaire possibilité d'être ensemble, puis justement bah de demeurer au contact, puis de découvrir que, bah tiens, le rôle de la patience, ça m'aide à pouvoir rester et explorer qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je résiste, qu'est-ce qui est difficile dans le sens du rapport à l'expérience. Donc, on a quelque part un choix. Dans cette capacité d'être au présent, il y a un choix. Le choix est là, grâce à la conscience, grâce à la présence. Et le choix, c'est justement de pouvoir nourrir une présence, une qualité d'accueil, d'ouverture, de patience, plutôt que de nourrir la résistance. Plus de négativité, plus de douleur. Moi, j'aime bien m'aider, et de temps en temps, je donne quelque part à mon esprit, à ma conscience, à mon cœur, des petits mots comme ça. Je veux dire, ça m'aide. Et le mot pause est un mot extrêmement parlant pour moi. Et de faire une pause, c'est justement avant la stimulation et quelque part l'alimentation de la réaction. Avant de réagir à une situation difficile ou en pleine réaction difficile, et je me rends compte qu'il y a une forme très puissante de réaction qui peut être là, et d'inviter ce mot « pause » me réveille. C'est la première des choses que ça fait, donc ça amène de la présence. Et une pause peut nous permettre à ce moment-là de mieux comprendre la situation et de nourrir l'intention de prendre un autre chemin que celui de l'habitude. C'est vraiment, c'est prendre un autre chemin. C'est-à-dire qu'il y a une autre trajectoire possible que celle du conditionnement habituel qu'on prend parce que voilà, on a tellement d'habitude, tellement d'habitude. Donc cette pause, elle permet un temps de, voilà, de quelque part ça décroche et ça permet à ce moment-là peut-être de faire surgir un petit peu plus d'équilibre, un petit peu plus de calme. On a le temps de répondre à la situation plutôt que de réagir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer par rapport à nous-mêmes dans notre méditation, mais c'est évident qu'on peut l'explorer, et c'est absolument extraordinaire de percevoir qu'on peut le vivre dans notre vie courante, au contact des autres, au contact de la vie, au contact de quelque chose qui nous déplaît, puis on réagit immédiatement. C'est fou, on est hyper réactif en réalité. C'est pas hyperactif, mais hyper réactif. Et donc cette pause, c'est ma manière à moi, donc je vous la propose, mais vous pouvez très très bien avoir votre propre façon de repérer ce qui se passe déjà, et puis de quelque part relâcher la pression, vraiment relâcher la tension, si elle est corporelle ou même... Souvent, c'est de la tension qui se situe dans l'esprit. C'est une attitude qui nous aide. Donc, cette résistance, c'est aussi une forme de contrôle. C'est incroyable combien on peut découvrir progressivement, tranquillement, la manière dont on se met en rapport avec l'existence sous la forme d'un contrôle. Et on pense, et là c'est à nouveau une manière un peu erronée de percevoir quelque part la vie intérieure, mais aussi la vie à l'extérieur, c'est qu'on se dit, voilà, si je contrôle, ben, tout ira bien. Maîtriser, contrôler. Mais qu'est-ce que c'est que le contrôle? Vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que le contrôle? Ben, le contrôle, et c'est intéressant parce que c'est vraiment expliqué ainsi, c'est un mécanisme de défense. Le contrôle est un mécanisme de défense, c'est quelque part employé à bon escient pour certaines situations. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne doit pas maîtriser, mais c'est employé pour tenter quelque part de gérer notre insécurité. Et on sent ceci. Il y a une telle perte de repères, de... quelque part de... Oui, d'insécurité, on va dire. Hein. Perte de repères. Peut-être qu'on n'y a pas réfléchi, mais en tout cas, on le ressent. Si ce n'est pas en nous-mêmes, c'est autour de nous. Hein. Voilà, on se donne vraiment, quelque part, l'espace de sentir ça. Donc, très fréquemment, cette réaction... quelque part, qui fait qu'on tend vers le contrôle, c'est contre la peur liée face à l'inconnu, face à l'insécurité. Donc, dessous, il y a cette émotion. Il y a naturellement cet aspect, cette dimension de crainte, crainte de perdre le contrôle. Et c'est ce qu'on dit. Et de toucher. Et c'est évident qu'il y a un moment donné où on va toucher cet aspect. Inconsciemment, souvent, le contrôle s'est mis en place, justement, afin de soulager la pression qu'on pourrait ressentir au contact de cette insécurité. Du coup, on planifie. Du coup, on anticipe. Du coup, on se dit, voilà, ça va se passer comme ça. Et puis, on reste vraiment très proche des concepts. Les concepts nous aident à rester vraiment dans un certain contrôle. C'est absolument fascinant de regarder ça. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas très bien. Je suis désolée de vous dire que c'est assez limité et ça ne fonctionne pas très bien parce que malheureusement, ce n'est pas comme ceci qu'on va sentir une certaine liberté intérieure. Donc, cette dimension de ces deux sources qui font qu'on contrôle, c'est souvent l'insécurité d'une part et on est dans une incapacité d'accueillir les imprévus, de laisser accueillir la vie. C'est-à-dire, on veut que tout soit prévisible. Donc, c'est un rempart, le contrôle. C'est un rempart, mais ça veut bien dire un rempart, une barrière. C'est très inconfortable, en réalité. Ça nous empêche de sentir la vie, de sentir le vivant. Maintenant, il y a bien des manières dont on peut décrire ceci. Pour chacun, chacune, lorsqu'on se pose la question et qu'on va naturellement être en situation, on va peut-être dire, tiens, quelle est ma manière à moi de contrôler? Donc, c'est important de pouvoir aussi explorer un petit peu comment est-ce que je suis en phase avec peut-être ce qui se passe. Est-ce qu'il y a effectivement une manière d'utiliser cet aspect qui nous est particulier, qui m'est particulier, spécifique, c'est-à-dire propre. Une des manières les plus courantes, et je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ceci que ça se manifeste, c'est justement la fuite. La fuite, la stratégie d'évitement. Pour ma part, c'est très présent, c'est incroyable. Combien tout à coup, waouh! Il y a une forme d'échappatoire, hein, c'est comme oh, je reste pas là. Et du coup, il y a la peur, forcément, qui n'est pas loin, mais c'est bien pour ça qu'il y a un échappatoire, une stratégie d'évitement, quelque part, qui fait qu'on part dans les rêveries, on part dans un monde magique, on est là et on se dit, on s'invente des histoires pour pouvoir pallier à cette insécurité. Donc, une des stratégies d'évitement, et je crois qu'on a pas mal de manières d'utiliser ceci, la façon dont on contrôle, c'est que, quelque part, quand on part dans les concepts, les rêveries, l'imaginaire, eh bien, ça nous donne l'illusion de pouvoir être justement dans une certaine sécurité. Mais c'est une illusion. Mais cette illusion, elle existe, hein ? Ouais. Ça nous donne quelque part le pouvoir, un certain pouvoir, le pouvoir de Dieu. Ouais. Je sais ce qui va se passer. Mais c'est l'histoire que je me raconte. Ce n'est pas ce qui va se passer. C'est ce que je me dis, c'est ce que je planifie, c'est ce que je pense, c'est ce que j'élabore, c'est ce que j'organise. C'est absolument génial de se rendre compte de ceci. Donc de reconnaître ces pensées. Ces pensées qui nous font croire qu'on a les choses entre les mains, qu'on a quelque part une certaine capacité de pouvoir anticiper. Donc cette qualité de patience qui nous permet non pas de nourrir les résistances et la réactivité et l'illusion de pouvoir quelque part anticiper, organiser, planifier, eh bien la patience va dans le sens inverse. Elle va vraiment dans le sens de pouvoir nous ouvrir, accueillir, consentir, aborder la vie avec ce qu'elle représente, à nouveau, d'agréable, désagréable, mais il y a une immense liberté là. Il y a une liberté immense dans le sens de pouvoir vivre la totalité de l'expérience. Elle intègre tranquillement, mais sûrement, la possibilité de la rencontre, de toutes les opportunités, les défis aussi. Mais on se sent vivant dans les hauts et dans les bas. Et ça, progressivement, c'est assez génial de pouvoir l'éprouver, le vivre. La méditation, si on en a fait depuis un moment, ben on sait de quoi je parle. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Donc, c'est une immense qualité. Notre compréhension, à ce moment-là, s'élargit. Elle rayonne pour pouvoir, waouh, accueillir. Et notre étroitesse, cette façon tellement réduite de dire, voilà, je mets un mur ben, qui me fragmente, qui me sépare, qui me donne l'illusion, rien ne va me toucher. Non, c'est le mur. C'est le rempart. C'est incroyable combien de murs sont érigés. Réellement, des murs. Il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu, apparemment, pour soi-disant se protéger. Donc là, plutôt que des murs, des ponts. Hein, des ponts. Vraiment le pont entre la douceur, la bienveillance, la persévérance, la patience, la présence, toutes ces qualités qui vont se nourrir et qui vont interagir les unes avec les autres. On peut vraiment envisager une autre perspective. Même lorsqu'on va bien sûr aussi se rendre compte qu'on rejoue nos conditionnements encore et encore. Moi, ça m'a été tellement utile parce que c'est ce avec quoi on grandit en réalité qui émerge. On grandit avec une certaine dimension de limitation, hein, sentiment de pas, par exemple pour moi, de ne pas avoir été respectée dans mon enfance, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Et il n'empêche que un jour, je me suis dit, mais c'est pas parce qu'on m'a pas respectée ou que j'ai été maltraitée que je dois moi-même me maltraiter. Mais ça, c'est une révélation quand j'ai réalisé ceci. Vraiment. Que ce choix-là, eh bien, il est entre mes mains. Je prends la responsabilité de choisir un autre chemin que celui qui m'a été inculqué et que j'ai avec lequel j'ai grandi. Donc, de choisir le respect. Et ce respect, il provient de cette dimension d'entrer en amitié, de metta. Entrer en amitié et de pouvoir quelque part inclure les parties blessées. Vraiment, les parties meurtries, douloureuses. Donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et ça m'amène à ce moment-là à dire quelques mots sur la troisième forme de patience, qui est quelque part d'y voir clair. D'y voir clair, de commencer à percevoir, tiens, quels sont quelque part les modes de conditionnement, ceux avec lesquels on a grandi la plupart du temps, de façon tellement évidente qu'il y a des choses qu'on nous a inculquées, voilà, on ne descend pas de nulle part. Hein. Il y a vraiment quelque part tout un registre de conditionnement qu'on a appris. Et quelque part de pouvoir aussi réaliser qu'on n'a pas besoin de les perpétuer. C'est absolument génial de pouvoir se libérer dans ce sens-là. Et c'est le sens de Vipassana, voir les choses comme elles sont pour quelque part se libérer de tous ces modes de douloureux en réalité et d'hostilité et de pouvoir quelque part se situer pour accueillir, accepter la réalité comme elle est aujourd'hui, mais d'avoir lentement cette lucidité qui permet d'y voir plus clair et de ne pas perpétuer ces conditionnements. Donc on laisse à ce moment-là la vie quelque part se révéler à nous. Il y a une très grande sagesse, immense sagesse dans ce cheminement. Et ce que je trouve très sage, c'est qu'en réalité, ça prend le temps que ça doit prendre. Pas de précipitation. Et là, justement, il y a la patience. Mais ce qui a été vu a vraiment été vu. C'est-à-dire que peut-être qu'on le voit une fois, deux fois, trois fois, mais une fois que c'est vraiment vu, quelque part, on choisit, en tout cas, on a la possibilité, on a l'habileté de choisir un autre chemin, une autre trajectoire. Et donc, cette vérité, eh bien, elle émerge à des niveaux de plus en plus profonds, plus en plus clairs. Ça implique de vivre en accord avec, quelque part, l'idée que nous sommes aussi un processus. On n'est pas fait de solidité. On bouge, ça bouge en nous. C'est nous-mêmes. Notre personnalité change. Notre manière de vivre change. N'y a pas un soi solide, durable qui ne change pas. Donc, il n'y a pas non plus un soi solide à défendre à tout prix. Vous voyez ce que ceci implique? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité. Donc, dans cette orientation, on a une vision beaucoup plus large de nous-mêmes. Il y a beaucoup d'espace, justement. Ça donne l'espace de voir d'un autre point de vue, d'un autre angle, et pas uniquement un angle extrêmement précis qu'on connaît tellement bien. C'est ce que je suis, c'est qui je suis. Une vision tellement limitée de nous-mêmes qu'on n'en peut plus de la voir déjà. À un moment donné, il y a un ras-le-bol de se voir sous un certain angle et ça se répète. Donc ça fait du bien de pouvoir élargir un petit peu la perspective. Byron Katie dit: la réalité est souvent beaucoup plus gentille que nos pensées. Donc ce sont ces pensées qui vont naturellement perpétuer et confirmer, soi-disant, qui nous sommes. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous sur la patience. Et puis, c'est réjouissant de savoir qu'on va pouvoir la pratiquer parmi d'autres qualités pendant quelques jours, en tout cas de façon intensive. C'est aussi génial de pouvoir être ici et pour la plupart d'entre vous, vous avez été déjà en retraite et de quelque part avoir une perspective justement. On peut explorer toute cette dimension de notre être en disant: oh mon Dieu, j'entends cet enseignement, tout ce qu'il y a encore à réaliser, encore à explorer, encore à libérer. Mais on peut aussi voir et puis vraiment avoir un autre angle dans le sens de se dire: waouh, mais c'est génial! Tout le chemin parcouru, tout ce qui a déjà été exploré. C'est très encourageant et ça donne à ce moment-là l'envie de poursuivre, de continuer ce chemin. Il ne s'agit pas du tout de finalité, le cheminement, il n'a pas de fin. Donc, je vais terminer avec un poème de Rob Cook, c'est un poète américain. Qui dit: ce que l'obscurité m'a appris, la lumière était toujours en moi, même si je ne la voyais pas. La vie était toujours une aubaine, même si je ne m'en rendais pas compte. L'amour était toujours présent autour de moi, même si je ne le laissais pas entrer. Et je pouvais en quelque sorte trouver mon chemin, même lorsque je me sentais perdue. Ce que l'obscurité m'a appris, la lumière était toujours en moi, même si je ne la voyais pas. La vie était toujours une aubaine, même si je ne m'en rendais pas compte. L'amour était toujours présent autour de moi, même si je ne le laissais pas entrer. et je pouvais en quelque sorte trouver mon chemin, même lorsque je me sentais le plus perdue.